Les jeudis de l'économie avec la BCI. BCI, la banque partenaire de tous les entrepreneurs calédoniens.
Bonjour et bienvenue dans ces jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Quels indicateurs économiques actuels permettent de mesurer l'impact de la crise générée par les émeutes? Comment ont évolué ces indicateurs depuis le 13 mai 2024? C'est l'un des thèmes de cette émission pour lequel nous recevons deux invités. Élise Desmazures, qui est la directrice de l'ISE, et Fabrice Dufresne, qui est le nouveau directeur de l'IOM. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Élise Desmazures, on vous connaît, hein, vous étiez venu vous présenter lorsque vous aviez pris vos fonctions à l'ISE. On vous connaît moins, Fabrice Dufresne, vous êtes arrivé à la tête de l'IOM en Nouvelle-Calédonie il y a quelques semaines maintenant, en provenance de Polynésie française, et la Calédonie est un territoire que vous connaissez déjà, si je ne m'abuse.
Oui, il y a 25 ans, en fait, j'étais en poste à l'agence de l'Institut des missions d'Outre-mer, qui n'est pas très loin de vos locaux, où j'ai découvert le Caillou dans un environnement complètement différent de celui qui prévaut aujourd'hui, puisque c'était juste après la signature de l'accord de Nouméa.
Alors, on était dans un autre contexte et une autre époque. Alors, on va parler de la situation actuelle en Calédonie et de ces bouleversements économiques qu'elle connaît depuis le 13 mai 2024. Avec les outils dont vous disposez les uns et les autres, hein, puisque vous avez des outils de mesure finalement de l'activité économique, ils sont nombreux. Élise Desmazures, l'ISE a un travail régulier et fournit régulièrement des données. Est-ce qu'elle s'est adaptée quand même à la situation du 13 mai 2024? Est-ce qu'elle a été obligée de changer un peu ses indicateurs, voire d'en créer d'autres, hein, pour essayer de comprendre ce qui se joue au niveau économique?
Oui, en fait, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'essayer de trouver les indicateurs les plus pertinents. Donc, effectivement, il y a certains indicateurs qui existent déjà et qui sont déjà régulièrement fournis, mais qu'on a décidé de mettre en avant parce qu'ils nous paraissaient pertinents dans le cadre de l'analyse de la crise.
Alors, quels sont ces nouveaux indicateurs qui ont été créés?
Alors, sur les indicateurs créés, c'est plutôt une exploitation des données de la CAFAT et de la Direction du Travail, par exemple, pour un suivi régulier, en fait, des demandes de chômage partiel, des nombres de chômeurs partiels qui sont effectivement indemnisés. Idem pour le chômage total, avec un suivi des deux types de chômage, parce qu'on a un chômage spécial exaction qui a été mis en place. Ensuite, on a des indicateurs qu'on suivait déjà précédemment, comme par exemple les importations, les exportations. C'est vrai que les importations, par exemple, c'est un très bon indicateur de la demande intérieure. Donc c'est un indicateur qu'on met en avant. On a également le suivi des liquidations judiciaires, qu'on suit du coup de manière un peu plus assidue que d'habitude. Sur les créations et radiations d'entreprises, qui sont issues du RIDET, qui est un répertoire que l'on gère à l'Institut. Et bien évidemment, notre objectif, c'est d'avoir de plus en plus d'indicateurs. Donc on est en train d'essayer d'en fournir des nouveaux. Donc en 2025, on imagine poursuivre l'exercice en alimentant un peu plus ce tableau de bord.
On verra comment vous pouvez alimenter un peu mieux ce tableau de bord, en tout cas de façon plus précise, et puis on reviendra sur certains des indicateurs dont vous avez parlé. L'IOM dispose, Fabrice Dufresne, d'autres indicateurs complémentaires finalement de ceux de l'ISE. On pense notamment à la fameuse état d'esprit des entrepreneurs, j'ai plus le terme en tête, mais l'indicateur de la confiance des entrepreneurs,
le moral. Oui, voilà. Oui, effectivement, chaque trimestre, on interroge à peu près 200 entreprises, 200 chefs d'entreprise plus exactement. Et puis, à la faveur des émeutes de mai 2024, on a, comme on l'avait fait d'ailleurs, comme la Covid, donc on a remis en place en fait un questionnaire complémentaire. Donc on va en parler tout à l'heure, qui permet d'aller beaucoup plus loin dans les questions d'évolution de l'activité, de l'emploi, des prix et des charges d'exploitation. Ça, c'est le premier élément. Donc au travers de l'évolution de l'indicateur du climat des affaires, donc on vous communiquera les chiffres qui sont sortis il y a quelques jours. Il y a un deuxième élément aussi sur les valeurs de transactions par carte bancaire et ainsi que les valeurs des retraits de cartes bancaires. C'est un indicateur qu'on avait avancé, qu'on avait utilisé aussi pendant la crise Covid. Et puis là, on regarde de très très près alors, les aspects défaillants de l'entreprise, même si pour le moment, il n'y a pas de chiffres catastrophiques, hein, puisque les entreprises bénéficient encore de soutien financier ou de report d'échéance fiscale, sociale ou bancaire, mais davantage sur la vulnérabilité des ménages, puisqu'ils sont, elles progressent au chômage total et partiel. Et donc, au regard de l'évolution du retrait de cartes bancaires qui sont en forte progression, des incidents de paiement sur les crédits rencontrés par les particuliers. Donc, ce sont deux indicateurs qu'on regarde très, très près sur les ménages.
Voilà. Et puis, vous avez aussi d'autres indicateurs qui sont peut-être moins publics, mais qui sont très importants pour vous dans votre rôle, finalement, d'accompagnement des banques, hein, de leur capacité bancaire, de leur liquidité. On sait que c'est toujours des choses un peu compliquées. Oui, alors, et assez technique en plus.
Oui, alors pour être simple, effectivement, nous avons pris notre part dans les moyens qui ont été mis en œuvre par l'État, par la mise en place d'un dispositif exceptionnel de refinancement. Qu'est-ce que c'est que le refinancement ? En fait, on prête de l'argent aux banques pour que les banques puissent à nouveau assurer le financement des particuliers et des entreprises. On a mis en place une ligne de refinancement de 23 milliards, assez conséquente, à taux zéro, de manière à pouvoir accompagner les difficultés des entreprises dans cette période de crise particulièrement aiguë.
Alors, on va revenir sur certains des indicateurs que vous avez mentionnés, puisqu'on parle des entreprises, Élise Desmazures. On va revenir sur cette fameuse suivi des liquidations judiciaires, dont on s'est rendu compte qu'elles n'étaient pas si nombreuses que ça. Alors, parce qu'un certain nombre d'entreprises sont encore aidées, parce qu'il faut aussi du temps, j'imagine, pour aller au bout des démarches, mais finalement, le nombre de liquidations judiciaires n'est pas aussi important qu'on pouvait le craindre, et que la création et la radiation d'entreprises, pareil, les chiffres sont un peu étonnants, en quelque sorte.
Sur les liquidations judiciaires, effectivement, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. On est sur des chiffres qui sont équivalents à ce qu'on a connu les années précédentes. Par contre, pour ce qui est des radiations nettes d'entreprises, on a quand même des signaux très négatifs. On a à peu près 1200 entrepreneurs individuels qui se sont radiés au REDET, et c'est à peu près 120 personnes morales, donc des sociétés, qui parfois ont en plus des salariés.
Ils ont des salariés, mais ça reste des petites sociétés. Hein. Le tissu économique reste avec essentiellement constitué de petites et moyennes entreprises.
Oui, complètement.
Hein. Mais 1200, c'est quand même beaucoup.
1200 entrepreneurs individuels, si on les ajoute aux personnes qui ont perdu leur emploi salarié, effectivement, ça commence à faire pas mal de monde qui n'a plus d'emploi.
On a parlé des radiations, des créations, il y en a quand même eu dans cette période ?
Oui, il y a quand même des radiations. Et donc, les chiffres que je vous communique, là, c'est vraiment le net, la différence entre les deux. Donc, on a très peu de créations d'entreprises. Et par contre, on a toujours beaucoup de radiation. Oui.
Alors évidemment, Fabrice Dufresne, il faut mettre ces chiffres en lien avec le fameux climat des affaires et le moral des entrepreneurs. Aujourd'hui, démarrer son activité, on imagine que beaucoup rechignent. Et la maintenir, pour certains, c'est déjà une gageure.
Oui, alors il y a un chiffre à retenir, c'était à la fin du mois de juin, quand on a interrogé nos 200 chefs d'entreprise. On était à l'indicateur du climat le plus bas depuis qu'on a mis en place ce type d'enquête. Ça fait 25 ans qu'on réalise ces enquêtes. Donc on est arrivé à 65. Donc 65, c'est en dessous de la ligne de 100. C'est-à-dire que le moral des chefs d'entreprise à fin juin était vraiment au plus bas. Il est remonté très légèrement à fin septembre, à hauteur de 74. Donc, mais il reste encore...
reste très bas.
Qui reste encore très bas. Alors c'est une très timide amélioration. Mais on n'a même pas rattrapé le chiffre de la Covid qu'on avait atteint donc, dans les années 2020. Donc c'est extrêmement encore dégradé.
Est-ce que vous faites aussi des comparaisons, justement, Fabrice Dufresne a cité l'année 2020, l'année Covid, sur les entreprises, la manière dont elles ont résisté, des comparaisons, vous aussi, à liser entre cette année 2024 et l'année 2020 ou 2021 ?
On n'a pas fait de comparaison directe, mais clairement, on est dans une situation qui est bien plus grave que ce qu'on a pu connaître à l'époque. Et c'est vrai que déjà, à l'époque Covid, on avait eu assez peu de liquidations judiciaires, par exemple, d'entreprises, parce qu'il y avait des soutiens qui avaient été mis en place, et du coup, une augmentation mécanique à la sortie de crise. Donc non, on est dans une situation qui est quand même bien plus marquée ce qu'on avait vu
Alors,
pendant le Covid.
Quid des chiffres du chômage ? Parce que là, c'est compliqué en ce moment. Il y a des régimes spéciaux qui ont été créés, en tout cas des indemnisations spéciales. Il y a le chômage spécial émeute, il y a le chômage partiel, il y a le chômage total, il y a le chômage de droit commun. Où est-ce qu'on en est un peu sur ces chiffres ? Est-ce que les choses ont évolué ces dernières semaines et ces derniers mois ?
Alors, ce qu'on sait sur le marché du travail, c'est qu'on regarde déjà le nombre de salariés, donc ça c'est les données de la CAFAT, entre le premier trimestre et aujourd'hui, on a perdu à peu près 9000 emplois. Ça veut dire qu'on a 14% du stock d'emplois salariés dans le privé qui a été détruit.
Ce sont toujours les chiffres qui avaient été un peu mis en avant. Hein. On parlait de 10 000 emplois environ. Hein,
c'est détruits. Ça. Donc on est plutôt un petit peu plus optimiste que ce qu'on avait dit la dernière fois. On est à 9 000 emplois détruits. Et en face de ça, on peut regarder le nombre de chômeurs indemnisés. Donc là, on parle du chômage total. Il y a effectivement deux formes de chômage total. Il y a le chômage de droit commun et le chômage spécial exaction. Et là, c'est 6 000 personnes qui sont concernées. Donc nous, par exemple, l'Institut de la Statistique, ce qui nous interpelle, c'est qu'en est-il du différentiel ? On a 9 000 personnes qui ont perdu leur emploi salarié et 6 000 qui sont indemnisées. Ça veut dire qu'on a à peu près 3 000 personnes qui, pour différentes raisons, aujourd'hui, n'ont pas de revenus de compensation, très certainement. Donc ça peut être des gens qui n'ont pas fait les démarches, ça peut exister. Ça peut être surtout des gens qui ne peuvent pas prétendre au dispositif. On sait que le dispositif exaction, il est bien plus ouvert que celui de droit commun, mais il faut que l'entreprise soit reconnue comme ayant été touchée par les exactions. Donc toutes ces entreprises qui ne sont pas concernées par ce périmètre et qui se séparent de leurs employés, ben, ces employés, s'ils n'ont pas travaillé suffisamment d'heures, et ben, ils se retrouvent sans chômage. Et après, il peut y avoir effectivement plein d'autres cas, des gens qui ne remplissent pas d'autres conditions que le temps de travail, des gens qui ont éventuellement quitté le territoire. Mais en tout cas, oui, c'est spécialement inquiétant pour ces 3000 personnes.
Oui, il y a la fameuse question du flux migratoire qu'on a beaucoup de mal aussi à mesurer, sur lequel vous travaillez, je crois.
Sur laquelle on travaille. Pour l'instant, on n'a pas encore conclu, mais on a des indicateurs qui sont de plus en plus pertinents. Donc je pense qu'on devrait bientôt y arriver.
Et le chômage partiel, alors ?
Voilà. Et en plus de ça, on a de chômage partiel. Donc c'est vraiment ce qui nous a donné envie de faire ce tableau de bord, c'était d'éclaircir un petit peu le discours là-dessus. C'est que ça concerne à peu près 12 000 personnes qui sont indemnisées au titre du chômage partiel. Donc ce ne sont pas des chômeurs, c'est des gens qui ont toujours un revenu et qui sont passés au temps partiel puisqu'il y a une réduction d'activité dans leur entreprise. Mais on espère vraiment que ces personnes vont pouvoir être maintenues en emploi. Et c'est là tout l'enjeu des discussions actuelles, c'est de savoir l'après, une fois qu'on n'aura plus le chômage partiel, est-ce que ces personnes vont être conservées dans les effectifs ou est-ce qu'elles vont venir gonfler les chiffres de l'emploi total? Du chômage total, pardon.
Ces questions d'emploi, vous les suivez évidemment, vous, à l'IOM, mais d'une façon un peu différente. Il y a plusieurs aspects. Il y a notamment la question de l'endettement, voire du surendettement d'un certain nombre de personnes. On sait que l'IOM travaille à ça. On imagine que dans la situation actuelle, malheureusement, le nombre de personnes signalées en surendettement a tendance à augmenter. Est-ce que vous l'avez vérifié ou est-ce que c'est encore trop tôt pour le dire ?
Alors, c'est encore trop tôt. Juste un rappel, c'est que nous, l'Institut des missions d'outre-mer, on assure le secrétariat de la commission de surendettement.
Oui, c'est pas
donc
vous
qui exerce une compétence pour le compte du pays. Ça, c'est important. Sur ces derniers mois, en général, il y a à peu près une centaine de dossiers de surendettement qui sont déposés chaque année. Et là, on a une petite progression, mais extrêmement timide, du nombre de personnes surendettées. Il y a par contre une statistique qui a un peu été modifiée au cours de ces derniers mois, c'est que la commission de surendettement permet en fait un effacement total ou partiel des dettes. C'est ce qu'on appelle la procédure de rétablissement personnel. C'est comme une faillite en fait d'entreprise, mais là c'est pour les particuliers.
Un particulier.
Et là, on a juste un chiffre, on a 37% de dossiers qui relèvent d'une procédure de rétablissement personnel. Et donc ce taux augmente très légèrement. Mais à ce stade, il n'y a pas un afflux de personnes qui sont davantage surendettées. Et comme le dit Élise tout à l'heure, en fait, il y a tous les dispositifs de soutien de revenus par le chômage total, qu'il soit total, enfin exaction ou commun, voire le chômage partiel, exaction ou commun.
Alors même si le sujet est un petit peu différent, on peut le lier avec l'un des points que vous évoquiez tout à l'heure, c'est les transactions en carte bancaire. Parce que forcément, les habitudes de consommation et d'utilisation d'argent liquide changent avec la crise, en fonction évidemment des revenus des uns et des autres. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui ? Est-ce que ces transactions ont tendance à s'accélérer ? Est-ce qu'il y a plus de retraits, moins de retraits ? Comment les choses se passent ?
Alors, donc, on regarde chaque semaine, chaque semaine, la valeur des transactions par carte bancaire et les retraits par carte bancaire de l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Il y a une chute très brutale les premières semaines après le 13 mai, de 60% en valeur des transactions. Depuis le 13 mai, c'est remonté progressivement, mais on est encore loin du niveau d'avant-crise. Donc on est à peu près à 8% de moins par rapport au niveau d'avant-crise.
Et qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Comment vous l'interprétez ?
Toujours pareil, c'est qu'il y a heureusement des mesures de soutien des ménages qui leur permettent de conserver un niveau de consommation relativement satisfaisant. Donc on le voit avec cette progression des transactions qui s'est redressée, mais elle n'est pas encore à la hauteur, hein, puisqu'on est quand même en crise des niveaux qu'on avait observés auparavant. Mmh.
Alors, autre indicateur, on les prend un par un, hein, tant pis, c'est un petit peu scolaire, mais en même temps, ça ouvre à chaque fois sur des axes et des aspects de cette crise importante. Vous l'avez évoqué, Élise Desmazures, c'est l'importation, les exportations. Là aussi, les choses ont évolué, évidemment, depuis le 13 mai.
Oui, alors sur les exportations, on sait qu'on a, du fait des émeutes, eu des blocages sur site, etc. Et on a en plus le blocage sur l'usine du Sud et l'usine du Nord qui
a fermé. Parce que les exportations, c'est essentiellement le minerai de nickel.
C'est ça, 90% minerai et métal. Donc là, on a effectivement un effondrement. Et du côté des importations, nous, ce qu'on constate, c'est une diminution de 35% des importations de mai à octobre, si on compare cette période entre 2023 et 2024. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'on a vraiment une diminution de la demande intérieure. Donc ça peut s'expliquer par la diminution de la consommation que l'IEOM peut mesurer avec l'utilisation des cartes bleues, mais aussi beaucoup sur l'activité des entreprises, en particulier les entreprises métallurgiques, forcément, et de l'investissement en général.
Alors, on ne va pas se livrer à l'exercice de la boule de cristal qui est absolument impossible. Ceci dit, dans l'état actuel de la situation que vous connaissez, que vous mesurez, que vous savez apprécier tous les deux, la Calédonie aujourd'hui est dans une phase extrêmement compliquée. On sait que les finances publiques sont quasiment vides. Hein. Il n'y a plus d'argent dans les caisses. Il y a des aides de l'État qui arrivent. Il y a eu cette décision modificative votée par le Congrès hier qui doit permettre le versement de 27 milliards et qui va permettre à la Calédonie d'honorer une partie de ses charges d'ici la fin de l'année. Comment vous la qualifieriez, cette crise, les uns et les autres, Fabrice Duchesne, pour commencer? C'est une crise grave? C'est une crise dont on peut sortir encore aujourd'hui? On est sur un fil qui fait qu'on peut basculer encore d'un côté ou de l'autre? Comment vous voyez les choses?
Vu le regard des instituts d'émission qui exercent dans les Outre-mer depuis plusieurs décennies, on en a connu des crises dans les départements, dans d'autres collectivités d'Outre-mer. Et celle qu'a connue la Nouvelle-Calédonie, on en a connu bien avant, c'est la crise la plus profonde, la plus violente, la plus aiguë, qui a des répercussions les plus élevées sur le plan économique, et voire, pas encore j'espère, mais sur le plan social aussi. Après, sur les perspectives de retournement, de rebond, si on peut appeler ça, on est encore dans la phase de sauvegarde et pas encore dans la phase de reconstruction. Sur les estimations de reprise, l'année 2025 va être, selon nous, une année encore assez blanche, parce qu'il y a encore des entreprises qui attendent le versement des assurances. Il n'y a pas de reprise du crédit bancaire, puisqu'on a observé une chute très brutale de la production de crédit bancaire. Et puis, ce qui est important, c'est qu'il faut instaurer en fait un climat de confiance et de stabilité qui est la donnée incontournable pour faire redémarrer l'économie. Et tout ça, ça relève bien entendu de l'obtention de la signature d'un accord politique global.
Un mot sur la production de crédit bancaire que vous avez mentionné. Il y en a moins eu ces derniers temps. Principalement pour quelles raisons? Parce que les Calédoniens ont moins d'argent peut-être et ont moins de perspectives de développement ou d'investissement personnel. Est-ce que c'est les banques qui ont durci les conditions dans lesquelles elles peuvent accorder les crédits? Est-ce que c'est les taux qui ne sont pas favorables? Parce qu'on n'en parle pas beaucoup des taux en ce moment. On les scrute en période normale, on ne les scrute plus en période anormale ces taux.
Alors en fait, dans un contexte de crise comme on a connu depuis le mois de mai, en fait, il y a un ralentissement total de l'investissement. On ne parvient pas à se projeter dans l'avenir, tant pour les entreprises que j'évoquais tout à l'heure, que pour les particuliers. Donc il n'y a pas une demande d'acquisition de logement. Hein, on est dans un marché complètement atone. Et donc c'est plus sur l'investissement. Il y a un peu de crédit à la consommation, mais il a beaucoup perdu entre septembre et mois de juin. Donc c'est par manque de visibilité que les acteurs, les agents économiques, en fait, freinent leurs demandes. Il n'y a pas de refus de la part des banques, puisque les banques calédoniennes ont joué le jeu, notamment par le report des crédits, tant à la consommation et crédit immobilier, pour les ménages et pour les particuliers. Ça leur a donné un petit bol d'oxygène par rapport à cette insuffisance de trésorerie. Sur les taux d'intérêt, alors, ils restent relativement élevés, mais je vous rappelle que depuis le mois de juin, Nous, l'IOM, dans le sillage de ce qui a été décidé par la Banque Centrale Européenne, on a commencé à baisser les taux directeurs. Ça s'est répercuté, et ça commence à se répercuter sur le taux des crédits, notamment immobiliers aux particuliers à fin septembre, et sur les crédits de trésorerie aux entreprises. Donc les taux restent relativement élevés, certes, mais ils ont commencé à baisser.
Et, ils ont commencé, demain, ça va se poursuivre.
Et ça va se poursuivre, puisque jeudi 12, la Banque Centrale Européenne donc, va se réunir.
La nuit prochaine.
Et les anticipations sont unanimes pour aboutir à une baisse de 25 points de base, encore des taux directeurs, que nous allons aussi, IOM, répercuter dans la zone Pacifique. Donc depuis le mois de juin, en fait, on aura perdu 100 points de base de taux d'intérêt. Donc c'est plutôt un environnement plutôt favorable sur les taux, hein, même si on n'est pas dans la période de reconstruction, mais pour le tard, c'est plutôt un environnement assez propice.
Et vous, en fonction des indicateurs que vous scrutez, Élise Desmazures, comment vous qualifieriez cette crise économique que traverse la Nouvelle-Calédonie ?
Effectivement, c'est une crise profonde et une crise assez inédite, hein, avec les partenaires Sérum, donc l'Institut d'émission et l'AFD. On essaie justement de mesurer les impacts et on se rend bien compte que techniquement et méthodologiquement, l'exercice est très compliqué puisque cette crise elle a plusieurs dimensions. Ensuite, ce qu'on constate, c'est effectivement la perte de confiance qui est vraiment la donnée la plus importante à retenir. Il faut vraiment ce retour de la confiance. On suit le nombre de transactions immobilières, par exemple, et on voit bien que personne n'a trop envie d'investir aujourd'hui. Et nous, ce qui nous préoccupe, c'est vraiment cette histoire de précarisation. Je vous parlais des 3000 personnes dont on ne sait pas trop de quoi elles vont vivre. On a aussi des gros problèmes par rapport au prix du transport. On sait qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à se rendre sur leur lieu d'emploi et donc qui risquent de le perdre pour ces raisons-là. On a même des étudiants qui ne parviennent pas à assister à leurs cours parce qu'ils n'arrivent pas à se déplacer. Donc nous, c'est vraiment cet aspect-là qu'on aimerait pouvoir suivre d'une meilleure manière et qui nous inquiète pour la reprise.
Donc ça fait partie des nouveaux outils que vous allez mettre en place pour suivre justement ces questions et ces thématiques qui aujourd'hui vous échappent pas, mais en tout cas ne sont pas cernées comme il le faudrait.
Mais ce qu'on essaie de faire, c'est par exemple suivre déjà l'inflation. Vous savez qu'on fait depuis quelques années l'inflation des plus modestes et on suppose que ce profil de consommation des plus modestes, il ne va plus représenter 20% de la population, mais un nombre de plus en plus important. Donc ça, on essaie de le suivre et ça rajoute de la précarité parce que sur l'année, on sait que les prix de l'alimentation, par exemple, ont explosé. Donc à ça se rajoute le problème des transports. Ensuite, on a lancé une enquête aussi auprès des associations parce qu'on se rend bien compte que toutes les aides sociales, elles ont tendance à diminuer. Et les associations, c'est vraiment ce qui permet en général de compenser, d'offrir un service à la population. Et donc, on va sortir les résultats de l'enquête certainement au premier trimestre. Mais les premiers résultats montrent effectivement qu'elles sont en grande difficulté.
Je vous vois avec un tableau de chiffres, Fabrice Duchesne. Vous vouliez en parler de ces chiffres que vous avez sous les yeux ?
Non, on l'a évoqué tout à l'heure, hein, parce qu'on suit de plus près sur les indicateurs sur la vulnérabilité des ménages. Élise vient d'en parler. Donc là, on suit l'évolution du nombre de retraits de cartes bancaires. Donc les flux dépassent largement de ceux de la Covid, hein, puisqu'on fait des comparaisons. Et puis un indicateur aussi assez pertinent, c'est le nombre d'impayés sur les crédits, donc qui sont recensés dans le fichier des incidents sur les remboursements de crédits des particuliers. Et donc là, on voit des variations. Alors, ce n'est pas forcément tant depuis le 13 mai, mais se sont accélérées depuis le 13 mai, puisque la crise, il y avait plusieurs crises, en fait, qui étaient antérieures à celle du 13 mai, hein. Crise du BTP, la crise du nickel. Et tout ça, ça amplifie, en fait, cette vulnérabilité. Il n'y a pas encore de fragilité extrême qui se traduit par un nombre de surendettés, tout à l'heure, qu'on a évoqué, mais on le surveille de très très près.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus dans cette émission pour nous éclairer sur les indicateurs et les outils dont vous disposez ou que souhaiteriez mettre en place pour accompagner et suivre au mieux cette actualité calédonienne et cette crise économique générée par les émeutes. On peut aussi renvoyer les auditeurs qui sont intéressés sur vos sites respectifs parce que les publications sont mises en ligne régulièrement. Donc vous pouvez aller consulter le site de l'ISEE ou le site de l'IOM, et puis on aura l'occasion de vous retrouver l'un et l'autre dans cette émission ou dans d'autres rendez-vous RRB pour faire le point régulièrement sur l'évolution de la situation économique. Merci en tout cas d'être venu dans cette émission.
Merci à vous.
Qui sera évidemment disponible en réécoute pour ceux qui le souhaitent dans quelques minutes. Bel après-midi.